jour et je vais essayer pendant les 45 minutes dont je dispose de vous parler du coaching. Alors c'est clairement un mot qui vous est familier, surtout si vous êtes des assidus du petit écran, de TF1 à M6 en passant par toutes les chaînes de tous les canaux, tout est coaching. Hein, on peut se faire coacher sur à peu près tout. On peut se faire coacher son look, on peut se faire coacher pour redécorer son appartement, on peut se faire du coaching capillaire. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché du tout. Depuis 10 ans, grosso modo, tout est devenu coaching. Hein. C'est assez étonnant, c'est un mot valise. Donc, il a pris un sens générique. Hein, on coache tout et, bien évidemment, au bout d'un moment, on finit par coacher n'importe quoi. Donc mon propos sera de vous expliquer ce qu'est dans l'univers professionnel le coaching à l'heure actuelle, ce que c'est, ce que ça n'est pas justement, par différence avec la formation, avec le conseil, avec la thérapie, de vous expliquer comment ça marche, comment ça se met en place, et ensuite de distinguer le métier de coach, si tant est que ce soit un métier d'ailleurs, et la posture de coach que peut-être tout un chacun, à un moment donné, peut adopter pour aider ou pour accompagner quelqu'un d'autre. Alors, ce mot d'abord, d'où est-ce qu'il vient ? Très clairement, alors moi j'ai été formé au coaching au Québec il y a un peu plus de 20 ans, et quand je suis revenu avec ça, on m'a dit... coaching, ça sert à rien, on ne sait pas ce que c'est en France, et en plus, ça doit être encore un truc anglo-saxon, ça ne va pas marcher. Donc, j'ai rangé ça dans mon tiroir et j'ai fait autre chose, ce n'est pas très très grave. Et puis, les médias se sont vraiment emparés de ce mot, et à partir des années 2000, là, 2002-2003, ça a été la déferlante. Le coaching devenait à la mode, et une des premières questions qu'on se pose quand on rencontre un mot comme ça, c'est d'où ça vient ? Alors, d'où est-ce que ça peut venir ? Donc, je fais la tentative souris. Ouais, ça marche. Hop, voilà. Donc, ça, c'est les thèmes que je vais aborder, tels que je vous les ai nommés. Et j'ai dû en rater une quelque part. Non. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient le terme. Alors, on en parle beaucoup dans le monde sportif. Alors, je crois savoir qu'il y a des sportifs de haut niveau dans la salle. Est-ce qu'on peut les identifier ? Avez-vous un... Alors, ils sont où, les sportifs ? Ils sont peut-être... Et vous avez un... Est-ce que vous avez un coach ? Voilà. Alors... dans le monde sportif, on va parler du coaching, et très clairement, la confusion va souvent s'instaurer entre deux rôles qu'on trouve dans le monde sportif et qui sont tout à fait complémentaires, l'entraîneur et le coach. Or, ils font des choses très différentes. Il se trouve, alors j'ai eu l'occasion de travailler avec des coachs pour des équipes de foot, il se trouve que l'entraîneur, c'est un technicien, c'est un pro, c'est un expert, il pratique, le coach travaille sur le mental. Donc, heureusement, le coach n'a pas besoin d'être compétent dans le sport du sportif qui l'accompagne, sinon, effectivement, en ce qui me concerne, les sportifs que j'ai accompagnés, ils ne seraient pas allés très très loin. Ma compétence en football est très très limitée. En attendant, ça vient du monde sportif, c'est-à-dire qu'effectivement, on a depuis très longtemps parlé de coach. Et puis, ça vient du vieux français et d'un vieux moyen de transport que l'on appelait le coche. Et le coach, en fait, ça vient de coche et pas de cocher, bien le coche qui est la voiture. Et vous retrouvez ça dans l'anglais. Dans la langue anglaise, puisque « sleeping coach », par exemple, c'est le wagon-lit. Donc, c'est le coach, c'est le véhicule qui va vous transporter d'un point A à un point B. Et l'analogie, elle est que le coach va accompagner une personne d'un état actuel à un état désiré. C'est-à-dire qu'il va effectivement rencontrer une personne qui souhaite progresser, qui souhaite évoluer dans un domaine qui, en ce qui concerne mes clients, sont soit d'ordre professionnel, soit dans la pratique de leur sport, soit dans l'élaboration d'un projet professionnel. Et donc, mon travail va être de les aider à mieux formaliser leurs objectifs, de bien identifier l'état désiré, là où ils veulent aller, et je vais les accompagner sur ce chemin. Donc, un mot, qui est plongé dans l'univers sportif et qui est plongé dans l'histoire, puisqu'on retrouve ça dans la langue française, dans le vieux français. Hein. Beaucoup de mots nous reviennent comme ça, hein, et on a des mots du vieux français qui vont se promener, faire un petit tour à l'étranger, qui nous reviennent avec une consonance anglo-saxonne, mais en fait, on a pas mal de mots comme ça dans notre vocabulaire. Alors, pourquoi le coaching maintenant ? Je crois que pour comprendre pourquoi le coaching maintenant dans l'entreprise, je vais vous afficher, je l'espère, le slide suivant. Sinon, ah, c'est bon. c'était juste pour tester les réflexes. Merci Céline. Une définition. Alors, le coaching, c'est l'accompagnement limité dans le temps de personnes ou d'équipes pour le développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Alors, c'est la définition que nous donnons à la SF Coach, la Société française de coaching, qui est une société professionnelle qui regroupe à l'heure actuelle 300 à 400 coachs accrédités qui interviennent dans le monde de l'entreprise. Donc, un accompagnement limité dans le temps. Le coaching, ça n'est pas un accompagnement très long. C'est quelques mois, maximum un an. Et c'est très peu de séances, je vous le dirai après, mais c'est entre 6 et 10, 12 rendez-vous dans cette période. Donc, ça n'est pas un accompagnement très long. Deux personnes ou d'équipes, puisqu'on peut accompagner un individu ou une équipe dans l'entreprise, pour le développement de potentiel et de savoir-faire, c'est-à-dire pour, partant de ce que les personnes ont comme compétences, comme aptitudes et comme potentiel, les aider à développer ça pour aller vers un résultat attendu et l'atteinte d'objectifs professionnels. Voilà donc ce qu'on peut identifier comme étant coaching. Vous trouverez sur le marché, si vous regardez un petit peu sur Internet, ce qu'on appelle aux États-Unis le life coaching, qui est un accompagnement de vie, donc des gens qui sont censés vous aider à aller mieux. C'est assez flou, assez mystérieux, et on rentre dans un univers qui n'est pas du tout réglementé, donc il y a quand même quelques dangers à aller du côté du life coaching sans bien savoir où on met les pieds. Hein, là, moi, je vous parle vraiment du coaching dans l'univers de l'entreprise, dans le monde du travail, dans le monde du projet professionnel. Donc, quel est l'enjeu ? C'est vraiment, et là, ça va parler aussi aux sportifs, c'est vraiment aider à ce que tout le potentiel de l'individu puisse s'exprimer pour atteindre le meilleur niveau de performance possible. Nous avons tous un potentiel dans des tas de domaines et nous ne savons pas toujours bien le mettre en œuvre, le mettre en mouvement pour atteindre les résultats dont nous rêvons plus ou moins secrètement. Et quelle est la volonté dans le coaching ? C'est d'aider la personne à progresser par elle-même, c'est-à-dire que le coach ne fait pas à la place d'eux, il ne dit pas ce qu'il faut faire, c'est la personne qui trouve les moyens de mobiliser sa compétence et son potentiel pour atteindre son résultat. Et là, on voit bien la différence entre le coach et l'entraîneur dans le monde sportif, puisque l'entraîneur a par définition une connaissance précise du sport qui est pratiqué, des techniques, des méthodes pour s'améliorer. Ça n'est pas le cas du coach. Ce qui se passe et qui fait la confusion, c'est que souvent, notamment dans des petits clubs où on n'a pas forcément les mêmes budgets que pour les grandes équipes, il se trouve que le coach et l'entraîneur sont parfois une seule et même personne et ça induit une certaine confusion. Donc ça, je l'ai dit. Alors, à quoi ça peut servir ? Eh bien, vous avez peut-être pour certains déjà mis les pieds dans l'entreprise, vous avez peut-être déjà fait des stages, vous avez observé des fonctionnements en entreprise, et vous avez vu que l'entreprise, en particulier depuis une vingtaine d'années, c'est un univers qui est devenu hyper complexe. C'est un univers qui s'est énormément technologisé, où on demande à une personne, non pas d'être comme à l'époque, pour ceux qui connaissent le film, à l'époque des temps modernes de Charlie Chaplin, non pas que, on n'est plus à cette époque où on était un bras ou une main qui répétait inlassablement le même geste tout au long de la journée. Et d'ailleurs, moins on pensait, mieux c'était. On est tombé maintenant dans un univers où, au contraire, il faut mobiliser tout un tas de connaissances, de compétences. Alors, en termes un petit peu plus techniques, on va dire tout un tas de savoirs, c'est-à-dire ce que vous êtes en train d'acquérir dans le cadre du lycée, un certain nombre de connaissances que vous allez combiner avec des compétences qui sont donc des savoir-faire et que vous allez combiner avec une troisième catégorie de savoir extrêmement importante qui sont les savoir-être, donc des comportements. Et c'est cet ensemble de connaissances, de compétences, de savoir-être que vous allez mobiliser en situation dans l'entreprise pour répondre à un certain nombre d'exigences de l'environnement qui se caractérise maintenant par la complexité. Dans l'entreprise, on demande aux collaborateurs non seulement d'être un bon technicien, d'être un bon expert dans son domaine, mais en plus, on lui demande de travailler en intelligence de situation, de coopérer avec les autres, de supporter un climat stressant, difficile. Alors certains y arrivent d'ailleurs plus ou moins bien, hein, et je crois que l'actualité vous l'indique tous les jours, on parle beaucoup en ce moment de souffrance au travail et de stress. Ça montre qu'effectivement, le monde du travail qui a, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pas seulement développé la personne en lui offrant la possibilité d'un travail riche, diversifié, mais on l'a aussi mise en situation de devoir souvent faire des arbitrages, faire des choix, aller vite, prendre des risques, etc. Et on a aussi développé du stress. Donc, pour répondre à ces difficultés croissantes d'un certain nombre de collaborateurs dans l'entreprise, pour les aider à dépasser des obstacles professionnels, pour les aider à dépasser des conflits manageriaux, donc des conflits entre un hiérarchique, un chef et ses collaborateurs, pour les aider à dépasser des conflits entre personnes, des conflits interpersonnels, pour accompagner de jeunes collaborateurs qui sortent du monde des études et les aider à prendre des postes difficiles, pour accompagner des salariés qui ont 40, 45 ans, 50 ans et à qui on demande de changer de métier, pour aider des chefs de projet ou des collaborateurs qui doivent mettre à plat leur projet, pour faciliter ou apaiser les difficultés de communication entre un manager et ses équipes, lorsqu'on prend des responsabilités et qu'on monte dans un comité de direction auprès des dirigeants de la structure. Voilà autant de situations qui font qu'on va proposer éventuellement un coaching. Alors j'ajouterai, parce que ça peut vous concerner, c'est quelque chose qui se développe. En tous les cas, il y a des coachs spécialisés dans ce domaine. J'ajouterai aussi qu'on rencontre dans les demandes de coaching des jeunes, en général de plus de 18 ans, je dirais en gros dans une tranche 18-25 ans, qui ont du mal à élaborer un projet professionnel. Et là, on voit encore une différence, et c'est une belle illustration, entre le coaching et le conseil. On peut aller voir un conseiller d'orientation, c'est généralement quelqu'un qui, à partir de votre cursus, de vos résultats, va vous suggérer ou vous conseiller un certain nombre de pistes d'évolution professionnelle. Dans le coaching, on met l'étudiant au cœur de la réflexion. On va se centrer non pas sur ce qu'est le marché ou ce qu'est théoriquement le métier que va exercer une personne qui a eu un bac S ou G ou STT. Voilà. On va s'intéresser à son projet, son envie, sa motivation. Et à partir de là, on va l'accompagner dans la formalisation de son projet. C'est-à-dire que le coach part de l'idée que chacun a en lui les potentiels pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé dès lors qu'il s'en donne les moyens. Donc c'est un vrai travail où le client n'est pas un sujet passif qui attend comme ça la réponse qui va lui être donnée par un quelconque expert ou technicien. Il se met au travail, c'est un vrai travail personnel dans lequel le coaché est vraiment l'acteur. Alors, je voudrais insister sur ce que n'est pas le coaching, parce que je pense qu'il y a pas mal de confusions qui ont été largement relayées par les émissions de télé-réalité et autres émissions grand public qui ont plus pour ambition de faire du chiffre et de capter un nombre de spectateurs que de s'intéresser à la réalité scientifique. En fait, il y a différents types d'accompagnement dans la vie. On peut souvent souhaiter être accompagné de façon plus ou moins formelle, sauf qu'en fonction de la nature, du besoin, de la demande, eh bien, on va aller chercher le bon accompagnement. Donc, je suis dans l'entreprise, j'ai eu un diplôme qui me légitime pour revendiquer un certain type de poste dans l'entreprise. Néanmoins, on va dire que j'ai le bagage minimum. C'est un petit peu comme quand j'ai le permis de conduire, ça garantit quand même pas que je suis un super bon conducteur. Mais j'ai le droit d'y aller, j'ai le droit d'aller sur la route. Le diplôme, c'est un peu ça. Ça donne le droit de chercher, à défaut de trouver, un poste dans le secteur d'activité pour lequel j'ai été préparé. Pour autant, je vais très vite découvrir en situation qu'il va me manquer un certain nombre de savoirs qui vont m'aider à être totalement performant. Donc, je vais aller du côté de la formation. Et le coaching n'est pas la formation, puisque la formation, elle est centrée avant tout sur l'acquisition de savoirs, de connaissances, qui vont vous être délivrés par un expert. Le coach n'est pas un expert. Lui, il est sur le savoir-être, il est sur le savoir-agir. Il va travailler dans la relation duel, c'est-à-dire il va travailler entre lui et vous, dans un espace confidentiel, je reviendrai sur le cadre. Il va vous proposer entre les séances de faire des expérimentations, de faire des essais, de tenter des choses, et vous allez revenir dans la prochaine séance de coaching avec ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire un retour d'information. Vous avez testé quelque chose, il s'est passé des choses, vous avez eu des résultats plus ou moins satisfaisants, et on continue à travailler sur cette alternance entre expérimentation et exploitation d'un feedback. Oups, j'en ai fait deux. Voilà. Alors, quelle différence y a-t-il entre le coaching et le conseil ? Conseil, qu'on peut appeler consultant, d'ailleurs, c'est un très vieux métier. C'est un métier qui existe depuis qu'il y a des techniques, qu'il y a des techniques sur lesquelles on a besoin d'une expertise qui n'est pas toujours présente dans l'entreprise. Donc l'entreprise, lorsqu'elle veut, par exemple, mettre en place une stratégie de marketing, lorsqu'elle veut développer son commercial, lorsqu'elle veut faire évoluer son système de gestion des ressources humaines, elle va aller chercher un expert qui est un conseil, un consultant, qui lui a une connaissance théorique, qui possède des outils, des méthodologies, et qui va, à partir d'un audit, préconiser au client telle ou telle méthode ou méthodo ou process pour lui permettre d'améliorer ses performances ou son résultat. Le coach, lui, il n'audite pas, il ne préconise pas, il est en retrait de la vie de l'organisation. C'est-à-dire que le coaching, ça ne se passe pas dans l'entreprise, c'est en général le salarié ou l'équipe coachée qui sort de l'entreprise et qui vient dans les locaux du coach. Donc, une différence entre le coach et le formateur et le conseil, dans les deux cas, c'est que ce sont des experts dans un domaine, ce que n'est pas le coach. Différence également avec la thérapie. Alors, ça a été l'angoisse de toutes les entreprises à l'arrivée du coaching, parce qu'un certain nombre de coachs étaient de formation, comme je le suis, des psys, des psychologues, cliniciens, ou des psychosociologues ou des psychologues du travail. On s'est dit, ça y est, c'est les psys qui envahissent l'univers de l'entreprise, on va tous être mis sous surveillance, on va avoir en face de nous des gens qui lisent dans le plus profond de notre inconscient. Alors, eh ben non, ça ne marche pas. J'ai essayé de lire vos inconscients. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à atteindre cette zone. Déjà, je ne suis pas certain toujours d'atteindre le niveau du conscient. Donc, le coach n'est pas centré sur la personne, comme le thérapeute. Il n'est pas là pour travailler sur des souffrances personnelles. Il est là pour travailler sur la personne en interaction avec son travail, sa fonction, ses missions, son environnement professionnel. D'autre part, les objectifs sont contractualisés, c'est des objectifs relativement simples, comme je vous l'ai dit, surmonter une difficulté relationnelle avec son équipe, réussir une prise de fonction managériale alors qu'on n'a encore jamais encadré une équipe, ce sont des objectifs simples. Si je vais voir le thérapeute, je suis en souffrance, j'ai l'impression que je vais mal, que je n'ai pas de but dans ma vie, que tout le monde me rejette, ou que sais-je, hein. Clairement, on n'est pas dans ce contexte-là quand on va voir le coach. On est bien sur un objectif précis en relation avec une difficulté ou un objectif de développement d'ordre professionnel. D'autre part, quand on va chez le thérapeute, on a un nombre de séances assez long, assez nombreux sur une durée assez longue, alors que ça n'est pas le cas avec le coach, comme je vous l'ai dit, c'est un nombre de séances limité. Si je résume. En termes de but, vous voyez, vous avez une présentation différentielle. La formation, c'est plutôt développer des savoirs et des savoir-faire qui vont renforcer le professionnalisme. En clair, la formation, c'est une des clés de la réussite professionnelle. Donc, vous êtes là pour ça et c'est tant mieux. Le conseil est plutôt en identification de freins ou de dysfonctionnements, en proposition d'évolution, de méthodologie pour optimiser des fonctionnements et des résultats. Et le coaching est là pour libérer des potentiels, aider à dépasser des obstacles limitants et pour essayer de pérenniser des changements de comportement. Donc pour pérenniser, c'est pour faire que ça dure. Hein ? Et si je regarde la mission de l'intervenant, pour le conseil ou le formateur, il y a de la transmission de compétences, il y a du renforcement, il y a de l'analyse et de la préconisation. Du côté du coach, il y a un accompagnement, mais je dis des fois en boutade à mes clients, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vous qui travaillez, c'est pas moi. Hein ? Donc dans le travail de coaching, le sujet est vraiment très actif dans l'atteinte de son objectif. Donc pour mettre en place un coaching, on va commencer par analyser une demande. C'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un qui vient et dit « ben voilà, on m'a dit de venir voir un coach, j'ai eu envie de venir voir un coach, ok, très bien, qu'est-ce que vous en attendez ? Hein ? Quelle est votre demande ?» Donc je vais les aider à formaliser leur demande. Mais je vais aller plus loin que ça, parce que derrière la demande, je vais demander ou je vais aider à formaliser le vrai besoin. Parce que parfois, j'ai une demande, mais la demande, ce n'est pas le besoin. C'est encore autre chose. Je peux demander quelque chose parce que je n'ose pas forcément parler de mon besoin. Hein ? Ensuite, je vais essayer de voir dans quel contexte ça se passe. Si la personne a, en termes de faiblesse, des difficultés qui feront que le coaching ne va pas servir à grand-chose. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un en face de moi, je caricature, mais ça m'arrive, qui est complètement dépressif, qui a le sentiment qu'il est en échec total, le coaching, ça ne va servir à rien. Il vaut mieux, dans ces cas-là, aller voir un psychologue, aller voir effectivement un professionnel de l'accompagnement, parce que la personne est en souffrance personnelle. Le coach ne peut pas intervenir sur ces demandes-là. Hein. Dernière chose, je vais inviter la personne qui vient me voir à aller voir d'autres coachs. Parce que dans le coaching, il y a à la fois une compétence professionnelle, mais il y a aussi l'envie de travailler avec l'autre. C'est, on dirait dans le langage courant, il y a une affaire de feeling. Donc si le courant ne passe pas avec un coach, ben, il faut chercher quelqu'un d'autre. Il faut que l'envie de travailler ensemble soit là et qu'elle soit réciproque. Il faut une éthique. Il faut une éthique pourquoi ? Parce qu'on est dans le champ de l'entreprise. Et le coach ne doit pas être pris dans des jeux de manipulation. On peut imaginer dans un certain nombre de cas, et je les ai rencontrés, qu'on essaye d'instrumentaliser le coaching, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser le coach parce qu'il y a un collaborateur qui est là depuis un certain temps et qu'on aimerait bien qu'il aille ailleurs, par exemple. Et on se dit que, tiens, si dans le coaching, l'idée du salarié pouvait être que tout d'un coup, effectivement, qu'il parte, ça serait une aubaine pour l'entreprise. Donc, il faut qu'on crée un cadre de déontologie qui protège le bénéficiaire du coaching. C'est pourquoi on formalise au travers d'un contrat, on l'appelle tripartite parce qu'il y a donc trois personnes ou morales ou physiques en jeu. Il y a l'entreprise qui finance le coaching, il y a le salarié qui bénéficie du coaching et puis il y a le coach. Donc on contractualise, on signe à trois. D'abord un engagement de l'entreprise sur la confidentialité des séances, c'est-à-dire que l'entreprise s'interdit de demander ce qui se passe dans le cadre du coaching. Ce n'est pas son affaire. Puisqu'on a simplement défini des objectifs, et ce sont seulement les objectifs que l'entreprise doit connaître. On définit strictement ce que doit être l'évaluation, et notamment en tant que coach, je ne fais jamais aucun compte-rendu écrit ou oral à l'entreprise par rapport au coaching qui s'est déroulé, ce qui ne serait pas le cas du formateur ou du conseil, qui pourrait donner un certain nombre d'informations, de feedback sur l'opération qui s'est déroulée. Le coach ne fait pas de compte-rendu écrit ou oral, du moins quand il est sérieux et qu'il répond bien aux règles éthiques de la profession. On met à plat les modalités de travail, on s'engage mutuellement à respecter des règles et on vérifie que le coach est bien formé et supervisé. Et à partir de là, le coaching démarre et l'entreprise, j'allais dire ironiquement, n'a plus qu'à payer les factures. Mais elle ne sait pas grand-chose de plus de ce qui se passe dans le cadre du coaching. Quels bénéfices on peut en espérer? Alors je les ai classés en trois familles. Bénéfices cognitifs, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de la connaissance. C'est-à-dire que je peux améliorer ma capacité d'analyse en tant que bénéficiaire. Je peux m'apercevoir que j'ai plus de potentiel que je l'imaginais, je peux dépasser des croyances limitantes, m'apercevoir que je peux aller beaucoup plus loin que les limites que je m'étais fixées, je prends du recul, je me fixe de nouveaux repères, donc je progresse. Bénéfice professionnel, là, c'est quand, clairement, mes compétences managériales, mon leadership se développe, c'est au profit de mon aptitude professionnelle et donc de ma réussite dans l'entreprise. Et puis, des bénéfices psychologiques, heureusement, parce que ce faisant, je gère éventuellement mieux mon stress, j'arrive à mieux mobiliser mon potentiel, à prendre de la distance par rapport aux pressions de mon environnement, j'arrive à mieux m'adapter aux changements, parce que effectivement, à l'heure actuelle, dans le monde du travail, une des grandes attentes qu'on va avoir, et notamment vis-à-vis des futurs salariés que vous êtes, c'est beaucoup de flexibilité, beaucoup de capacité à s'adapter, beaucoup de capacité à voir chaque situation comme une nouvelle occasion de réfléchir à la bonne stratégie pour agir. Donc on va demander beaucoup d'intelligence de situation. C'est à la fois excitant et c'est à la fois épuisant. Alors, une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend d'où on se place. Le coaching, ça ne marche que si la personne a une demande et une envie de s'y mettre. C'est-à-dire que, clairement, obliger quelqu'un à faire un coaching, ça ne sert à rien. Le coaching n'est utile que pour quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a une demande et qui est prêt à travailler, qui est prêt à s'engager dans ce dispositif-là. Il faut qu'il y ait un vrai contrat tripartite qui précise bien les objectifs, les indicateurs d'évaluation du succès en sachant que le coach n'y participera pas et qui donne la garantie de la confidentialité des séances. Alors, quelques repères. Comme je vous le disais, c'est court un coaching. C'est court en amplitude d'une part puisque c'est souvent quelques mois et c'est très rare que ça atteigne un an. Et c'est un nombre de séances limité puisque le minimum c'est 5-6 et ça va jusqu'à 10-12. Sont des séances assez courtes elles-mêmes, puisque c'est 1h30 à 2h. Donc en fait, grosso modo, dans un coaching, on va passer entre 10, 15 et 20, 25 heures avec un coach. Donc c'est vraiment très peu de temps si je mets ça au regard, par exemple, de la thérapie. Hein, donc si vous allez même rencontrer un thérapeute pour des entretiens de soutien, vous allez passer certainement beaucoup plus de temps. Et si vous envisagez une psychanalyse, là, effectivement, vous êtes parti pour plusieurs années, hein, avec des rendez-vous hebdomadaires. Donc on n'est pas du tout dans le même registre. Comment ça marche une séance? Alors là, ce n'est pas modélisé. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vous décrire une séance de coaching type parce que je n'en ai pas. Ça va dépendre de qui est mon client et de sur quoi on travaille. Dans certains cas, je vais utiliser des outils. Si par exemple, j'ai un jeune de 21 ans qui est un peu en perte de repère dans son parcours d'études, je vais utiliser des outils. Par exemple, un inventaire des intérêts professionnels. Ou bien un outil qui va faire ressortir ce que sont ses préférences professionnelles, hein, ce que sont ses préférences en général dans la vie. Et à partir de là, on va travailler et essayer d'avancer sur des hypothèses quant aux intérêts qui pourraient le motiver, puis après on va décliner ça sur ça correspond à quel cycle professionnel, et pour aller vers ces cycles professionnels, quels sont les prérequis, est-ce que c'est envisageable avec tel et tel type de formation, etc. Donc on va vraiment travailler un petit peu à l'envers de ce qui se fait habituellement, et surtout c'est le bénéficiaire qui va travailler. Si je travaille avec un manager qui a eu un conflit dans la semaine avec son équipe, bien, je vais lui proposer de raconter la scène, de la schématiser. Éventuellement, je vais même lui proposer de la symboliser avec des petits personnages qui ressemblent un peu à des Playmobil, mais simplement, ils n'ont pas de déguisement spécifique, parce que la façon dont la personne décrit la scène, c'est indicatif de la façon dont déjà elle s'est placée en tant qu'acteur dans la problématique. Donc, on prend du recul, on échange, on réfléchit, on imagine des scénarios alternatifs. Et si vous aviez fait ça, qu'est-ce qui serait passé? Et si vous aviez essayé telle ou telle chose, à votre avis, est-ce que ça aurait été plus efficace, moins efficace? Pourquoi? Donc on est vraiment dans un espace de recherche et d'échange. Les outils. Alors, dans la présentation que Céline a faite tout à l'heure de moi, elle a parlé d'un certain nombre de techniques sur lequel j'ai été formé, certaines approches, notamment l'analyse transactionnelle et l'approche systémique. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais perdre les derniers dans l'auditoire qui est encore attentif. Sachez simplement qu'il s'agit d'approches de la connaissance autour de la connaissance de la personnalité dans l'analyse transactionnelle et de l'approche d'un système, par exemple dans les organisations, qui sont toutes des théories développées à partir d'un courant qu'on a appelé l'école de Palo Alto, qui est une école, un courant de pensée, qui d'ailleurs est également issu de la technique et de la physique. La systémique a beaucoup à voir avec tout ce qu'on sait dans les domaines techniques. Hein, et on a appliqué ça au champ aussi de la relation humaine, de la relation organisationnelle. Donc c'est un certain nombre d'outils. Donc suivant les coachs, chacun a pu être formé à l'une ou l'autre de ces approches-là. Ici, j'en ai cité 7, la programmation neurolinguistique, la gestalt, la théorie de l'intelligence émotionnelle. Mais j'allais dire que, d'ailleurs je vais le dire sur le slide suivant, que de toute façon, le premier outil, c'est d'abord le coach lui-même. C'est-à-dire que les outils ne sont pas une fin, mais c'est simplement un moyen. C'est-à-dire que le coach, il a une boîte à outils, et en fonction de son client, en fonction du problème que rencontre son client, en fonction de l'objectif qui est visé, eh bien, il va les piocher dans sa boîte à outils pour proposer un certain nombre d'outils, d'exercices, de mise en situation qui doivent permettre à son client de trouver de nouveaux éclairages, de trouver de nouvelles réponses et de progresser par rapport aux problèmes qu'il avait en rentrant. Comment est-ce qu'on choisit un coach? Comment on les trouve, ces gens-là? Alors, on les trouve un peu partout. les entreprises, elles, commencent de mieux en mieux à savoir acheter le coaching. C'est-à-dire qu'il y a 10 ou 15 ans, elles tapaient les pages jaunes, hein, où elles faisaient Google. Maintenant, en fait, les DRH, les responsables des ressources humaines, sont formés eux-mêmes à ce qu'est le coaching et ils ont défini un certain nombre de critères pour sélectionner les coachs. Ça va du parcours du coach, comment il s'est formé, quelle expérience il a, sa pratique en termes d'outils, de déontologie, d'appartenance à des organismes professionnels qui vont garantir un certain niveau de compétence, des qualités humaines. Je cite notamment la congruence. Vous voyez bien que dans le métier de coach, une des premières qualités, c'est d'abord la qualité d'écoute. Donc si vous avez en face de vous quelqu'un qui vient vous parler du fait qu'il est coach et qu'il n'écoute pas une minute dans l'entretien ce que vous êtes en train de dire, on peut se poser des questions sur ses réelles qualités de coach. Donc la congruence, c'est effectivement d'être cohérent quelque part entre ce que l'on dit être et ce que l'on est dans sa pratique. Hein. Quelqu'un qui a une certaine hygiène, alors l'hygiène, c'est pas juste l'eau de toilette, hein. Et le savon, c'est effectivement l'hygiène du coach et sa capacité à continuer à se former, à être supervisé, à participer à des groupes de travail avec ses collègues. Donc c'est une activité professionnelle assez exigeante. Et pour conclure donc sur cette intervention et pour être dans les temps, je voudrais distinguer le coach et la posture de coach, parce que je pense que à tout moment, vous pouvez, dans une situation spécifique, vous mettre en posture de coach par rapport à quelqu'un que vous voulez aider. Ça ne veut pas dire que vous êtes son coach, c'est autre chose, mais il y a un certain nombre de comportements qui peuvent vous permettre d'aider quelqu'un qui a une difficulté, qui a du mal à dépasser un problème, qui rencontre ou qui est en malaise ou qui n'arrive pas à trouver une réponse. Alors, c'est sûr qu'exercer le coaching, ça suppose une formation, une expérience, d'avoir travaillé sur soi. Hein, c'est-à-dire que le coach, il a passé du temps en thérapie pour faire le ménage sur lui avant de commencer à s'occuper de ce qui se passe chez les autres. Il va être formé à des techniques, à des méthodes, à des outils. Donc, on est clair, pour exercer le coaching, il faut un certain nombre de compétences. En revanche, la posture de coach, elle est possible dès lors qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec votre statut. C'est-à-dire, le manager, le patron, ne peut pas être le coach de son salarié, puisqu'il est en même temps dans une relation de dépendance. Dans l'absolu, il pourrait peut-être être très bon, mais dans la réalité du système, il est le patron et le salarié pourra toujours se poser la question de savoir si en voulant l'aider comme il le dit, le patron n'est pas en train plutôt de lui faire prendre la voie qui l'arrange. Donc il y aura toujours un doute. Donc de la même façon, le parent, et moi je suis souvent étonné de voir à la télévision des âneries du genre le parent coach ses enfants. Non, le parent c'est un parent. Donc il éduque ou il essaye, il devrait en tous les cas, il donne un cadre et il essaye de le tenir, mais il n'est certainement pas le coach de ses enfants. Si ses enfants ont besoin d'un coach, ben, il y a les personnes qui sont là pour ça. À chacun son travail et à chacun ses responsabilités. Les responsabilités du parent sont déjà suffisamment grandes pour qu'on ne lui colle pas en plus le rôle de coach. Mais déjà qu'il arrive à tenir ses responsabilités à lui, c'est déjà bien. Alors on voit apparaître maintenant des coachs internes dans les entreprises, c'est-à-dire des gens qui sont salariés de l'entreprise, mais à qui on demande de jouer un rôle de coach en interne. Pas mal de grandes entreprises ont ça. IBM a été parmi les premiers, La Poste, EDF, la Société Générale. Maintenant, plein de grands groupes ont ça. Les salariés restent encore très méfiants parce qu'ils se demandent toujours qui sont ces coachs qui ont un pied dans l'entreprise et donc un pied près de la direction et un pied du côté du salarié. Ils se méfient un petit peu, mais il faut savoir, et vous le verrez, dans les entreprises, parfois, vous rencontrerez des gens qui sont étiquetés coach interne, puisque donc payés par l'entreprise dans laquelle les salariés qui bénéficient du coaching travaillent. Donc, ce qui est particulier à la posture du coach, c'est qu'on est, alors dans notre jargon, on dit position basse sur la technique, l'opérationnel et la compétence métier. Ça veut dire que moi, le coach, Je ne viens pas interférer sur la technicité du métier. Moi, j'accompagne en coaching des directeurs généraux de grosses entreprises. Je suis totalement incompétent. Alors, deux choses. D'abord, je ne suis pas compétent pour faire leur job. Et deuxièmement, je n'en ai pas envie. Donc, ça fait déjà deux bonnes raisons de faire qu'on est dans des champs différents. Mais je ne suis pas compétent. Donc, ça veut dire que je suis en position basse. Ça veut dire que je ne vais pas interpeller et dire « Tiens, vous auriez peut-être pu essayer ça ou autre chose sur le domaine de la technique. » Moi, je suis en position haute. Donc, je suis dans mon cœur de métier. Quand je suis dans l'écoute, quand je reformule ce que j'ai entendu, quand je questionne, quand je propose de regarder l'univers autrement, quand je propose des jeux de créativité. Tiens, bah, votre situation, là, avec votre collaborateur, on va essayer de l'imaginer autrement. Et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà la particularité de la posture de coach. Ça veut dire que si vous-même, vous vouliez vous mettre en posture de coach parce que vous avez un de vos camarades qui dit, ben voilà, je sais vraiment pas quoi faire professionnellement, je me demande ce que je fiche là, tiens, dans cette section, j'aurais peut-être essayé de faire autre chose. Si vous voulez l'aider en posture de coach, la première des choses à éviter, c'est « moi à ta place ». Précisément, le « moi à ta place », c'est à l'inverse de ce que doit faire le coach. Parce que le coach, il n'est pas à la place de son client. Et vous, vous n'êtes pas à la place de votre copain ou de votre copine. Donc vous allez plutôt essayer de l'écouter ou de le questionner pour essayer de lui faire dire, au fond, pourquoi il peut dire que ça ne va pas, qu'il ne se sent pas bien à sa place. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est par rapport à certaines disciplines où il se sent en échec? Voilà. Là, vous allez être dans une posture de coach dès lors que vous allez faciliter la réflexion, faciliter le questionnement, aider la personne à faire émerger parfois les vrais problèmes, et ensuite, sans jugement, vous allez l'accompagner dans sa réflexion pour trouver éventuellement des solutions alternatives ou pour l'aider à découvrir qu'au fond, le choix qu'il a fait n'est pas si mauvais que ça. Parce que le coaching, ça peut aussi servir à s'apercevoir qu'au fond, la situation que l'on vit est une situation qui n'est pas si loin de celle qui était l'état désiré et que parfois, ce que l'on imaginait des difficultés énormes à surmonter ne sont que des tout petits obstacles, de rien du tout. Donc, ça permet aussi de relativiser. Donc, en conclusion, vous avez ici le slide là sur... la particularité de la posture, hein, conseil et formateur sont centrés sur les savoirs et les savoir-faire. L'intervenant en posture de coach est centré sur les savoir-être. Il écoute. Alors, écoute empathique, je ne sais pas si vous connaissez le mot, hein, l'écoute empathique, c'est l'empathie, c'est la capacité à se décentrer, à ne pas être dans ses modèles et dans ses, emprisonné par sa façon de voir les choses. Donc c'est la capacité à se décentrer, à se mettre à la place de l'autre, mais pour comprendre ce qu'il dit, sans oublier qu'on n'est pas l'autre. Donc c'est vraiment une démarche de décentration de soi, mais c'est un exercice qui n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Donc aide à la réflexion et à la décision par le sujet lui-même. Voilà, c'est vraiment quelque chose... Hein. Donc... pas de médiocrité, pas de relation de subordination, vigilance, hein. C'est vraiment pas d'à peu près. Et surtout, suspension du jugement. Je ne juge pas lorsque je suis dans le coaching. Et je censure mes opinions et mon conseil. C'est pas ça qu'attend de moi mon client. Voilà donc les grandes lignes de ce que je pouvais vous dire sur le coaching professionnel. Encore une fois, c'est une activité professionnelle plutôt jeune, hein, puisque l'association à laquelle j'appartiens, la Société française de coaching, est née en 1996, donc ça fait 15 ans. C'est pas beaucoup. Et le boom, j'allais dire, de l'activité du coaching, il a 5-6 ans. Donc on est dans un univers assez nouveau qui correspond aussi à des évolutions assez nouvelles dans le monde de l'entreprise. Et c'est non pas ce qui va remplacer, le coaching c'est pas la panacée, hein. Le conseil et la formation ont encore toujours leur place et auront encore leur place dans l'entreprise, mais c'est une nouvelle aide, une nouvelle démarche dans la palette des démarches disponibles dans l'univers de l'entreprise et du développement du projet professionnel. Voilà, mes 45 minutes sont tenues, puisqu'il est 3h15. Donc maintenant, ça va être à vous de réagir, de poser des questions, d'être dans la critique. Comme vous le savez, la